la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Il y a des lois qui passent presque silencieusement, pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce qu'on les présente comme évidentes. La loi Adam fait partie de celle-là, une loi débattue, une loi contestée, une loi accompagnée d'une pétition et pourtant rejetée par l'Assemblée nationale. Et avec elle, une question centrale presque gênante, qui peut encore s'opposer à une loi dans notre cadre démocratique ? Quand les voix institutionnelles s'épuisent, quand la mobilisation citoyenne est disqualifiée, quand la contestation est renvoyée à l'émotion ou à l'illégitimité, que reste-t-il ? Ce soir, on ne va pas donner des réponses toutes faites, mais on va poser les questions, les vraies, celles qui dérangent, celles qui méritent du temps, de la nuance, de la contradiction. Ce soir, on va questionner cette idée de contre-pouvoir. On va parler de droit, mais aussi de mobilisation, de visibilité, d'opposition légitime. Et puis, on prendra le temps d'ouvrir d'autres portes, celles de métiers méconnus, comme thanatopracteur, pardon, par exemple, mais pas que, on va aussi parler de sport et plus précisément de course à pied, là où les corps se croisent mais ne sont pas traités de la même façon. Bienvenue dans votre matinale, voici le programme. Ce soir, une interview menée par Alice en studio avec Laureline Fontaine pour comprendre qui peut encore s'opposer à une loi et ce que signifie le rejet d'une pétition à l'Assemblée. Un format « C'est quoi ton taf ?» où on découvre le métier de thanatopracteur, comme on l'a dit avec Michael alias Mika, en ligne, au téléphone avec nous, interviewé par Eve. Un reportage sur la manifestation contre la loi Adam avec Laureline et Alice. Le flash info avec Fabien pour faire le point sur l'actu du jour. La chronique actu d'Amaury et on terminera la chronique avec la chronique libre de Rachel qui mettra en ligne... Avec la chronique libre de Rachel. On commence tout de suite avec un reportage, puis une interview. C'est parti.
La matinale de 19h. Radio Campus Paris.
Bonsoir, Laureline Fontaine. Merci d'être avec nous au micro de Campus ce soir. Donc vous êtes professeur de droit public à l'Institut d'études européennes et responsable du master de études européennes dans ce même institut, mais également membre du conseil scientifique de l'Association française de droit constitutionnel, du comité scientifique de la revue Les cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux et du conseil scientifique de la revue de droit constitutionnel. Ensemble, on va décrypter ce qui se passe au moment d'une proposition de loi et quand des citoyens et des citoyennes la contestent. Alors pour entrer dans le vif du sujet, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale est débattue ou a presque failli être débattue la loi Adam qui vise à lutter, je cite, contre les nouvelles formes d'antisémitisme. On va écouter un reportage réalisé par Hugo Traversy en début de semaine qui s'est rendu à Sciences Po Paris et on en parle juste après.
Nous sommes avec Carolina de Sciences Po, donc Paris-1. Aujourd'hui, plusieurs facultés sont occupées pour protester contre la loi Adam. Bonjour Carolina, c'est quoi la loi Adam ?
Bonjour, en fait la loi Adam c'est une loi qui est proposée par Caroline Adam, députée Renaissance, et en fait qui prétend vouloir lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme, mais qu'en fait en réalité ce que ça cache c'est une tentative de faire taire toute forme de contestation de l'État d'Israël et surtout toute forme de solidarité avec le peuple palestinien, en particulier dans les universités.
Aujourd'hui vous occupez 3 campus, sont lesquels ?
Bah, actuellement, il y a le campus de la Sorbonne de Paris 1 qui est occupé, il y a le campus de Sciences Po qui est aussi occupé, et il y a le campus de la centrale Supélec à Saclay qui est occupé aussi.
Et il y en a un qui se fait déloger, non ?
Oui, exactement. À Sciences Po, il y a les forces de l'ordre qui seraient en train d'intervenir ou qui vont intervenir sous peu. Pour l'instant, à la Sorbonne, il n'y a pas d'intervention en vue, même s'il y a déjà la police qui est pas très loin. Mais du coup, on va voir comment ça va se passer.
Aujourd'hui, on est mardi. La loi, elle est examinée jeudi, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
C'est quoi le risque de cette loi ?
En fait, le risque de cette loi, c'est que ce soit aussi un pas de plus à la fois dans la criminalisation des soutiens de la Palestine et que d'autre part, ce soit un pas de plus dans les lois autoritaires et sécuritaires qui ont été mises en place ces dernières années et qui empêchent les mobilisations dans les facs. En fait, le risque, c'est que demain, un étudiant, par exemple, de la Sorbonne qui a envie de se mobiliser pour la Palestine et de critiquer la politique de l'État d'Israël, il puisse être poursuivi en justice pour ce fait.
Et vous pensez occuper combien de temps les facultés ?
Nous, notre idée, c'est de rester là tant qu'il le faudra et tant surtout qu'on le pourra, quoi, tant qu'on ne sera pas délogé. Parce que l'objectif, c'est vraiment de faire pression de manière à ce que la loi soit retirée et qu'elle ne soit même pas votée ce jeudi, mais que plus globalement, on a aussi envie de mettre en lumière à la fois notre soutien aux flottis qui sont partis maintenant pour Gaza, à la fois notre soutien à tous ceux qui sont réprimés en France pour leur solidarité à la Palestine, et même de mettre en lumière le fait que nos universités aujourd'hui, elles sont partenaires d'entreprises complices du génocide en Palestine, je pense notamment à Thalès, et que plus largement l'État français, il est complice de ce génocide et qu'il continue d'envoyer des armes à Israël.
Merci beaucoup Carolina. Pourquoi est-ce que c'est important d'être là aujourd'hui ?
Pourquoi ce serait pas en fait ? Parce que c'est contre la loi Yadan, c'est clairement ils censurent. C'est une atteinte à notre liberté d'expression de pouvoir critiquer un État génocidaire et on devrait complètement avoir le droit en fait.
Est-ce que vous avez peur que la police vienne vous déloger actuellement ?
Oh, c'est déjà arrivé je pense, donc à force, on s'y est habitué. L1, ça va quoi.
C'est absolument une possibilité, mais après, enfin, c'est ça, c'est déjà arrivé. Et nous, quoi qu'il se passe, on est là pour montrer qu'on est solidaires. Le plus important, c'est de montrer qu'on est nombreux et de montrer qu'on va pas se taire.
Au fond, c'est pas la peur qui va arrêter les gens quoi, d'agir, je pense.
Un reportage signé Hugo Traversier pour Radio Campus Paris.
Alors d'un point de vue plus général, avant de rentrer un peu plus dans le détail, en tant que spécialiste du droit, qu'est-ce que vous retenez de ce reportage ? Qu'est-ce qui y ressort ?
Ce qui ressort, c'est que donc les jeunes personnes qui sont interrogées donc ont une idée de ce qu'est la liberté d'expression et une idée de ce qu'il devrait être. Permis de dire et qu'on vise ici par cette loi effectivement potentiellement à limiter ou à pénaliser en fait, c'est aussi ça la problématique. Alors évidemment tout le problème en fait toujours c'est que la liberté d'expression totale n'existe pas.
Oui, on a l'impression que des fois c'est un peu à géométrie variable et que la définition n'est peut-être pas claire ou en tout cas pas elle fait pas forcément consensus, ou en tout cas selon le bord politique. Enfin, qu'est-ce que le droit dit aujourd'hui de la liberté d'expression ?
Alors en fait, il y a plusieurs strates de normes. C'est-à-dire qu'on a les normes qui sont dites fondamentales, en quelque sorte. Il y a celles qui sont la Déclaration des droits de l'homme, qui parlent de la libre communication des pensées. On a les normes qui sont dans la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple, qui parlent plus spécifiquement de la liberté d'expression. Mais de manière finalement assez large, c'est-à-dire que ce sont des énoncés qui sont très généraux, que l'on retrouve en France, mais dans bien d'autres pays. Or, ce qu'on constate, c'est qu'aucun pays n'a exactement la même vision de l'étendue accordée à la liberté d'expression. Et donc, ça veut dire qu'il revient aux autorités de chaque pays de définir ce qui est contenu ou non dans la liberté d'expression. Et là, typiquement, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a affaire à ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à des autorités politiques qui ont été élues. On reparlera de cette question d'ailleurs de la notion d'élection et ce que ça implique dans notre système politique et dans la possibilité ou non de contester ce qui est fait. Mais en tout cas, donc, on a des autorités politiques qui prennent en charge cette définition en quelque sorte de la liberté d'expression. Dans le passé, il y a déjà eu un certain nombre de limitations qui existent. Pour faire un rapprochement quand même avec ce qui se passe en ce moment, il faut quand même savoir qu'il y a un délit pénal qui s'intitule l'apologie du terrorisme et que déjà sur ce fondement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnalités, qu'elles soient des personnalités militantes, syndicales ou pas, mais souvent des personnalités militantes et syndicales qui sont poursuivies pour apologie du terrorisme parce qu'ils ont éventuellement justement critiqué l'État d'Israël. Donc il y a déjà quelque chose de cet ordre-là, mais pas au nom de la liberté d'expression. C'est ça qui est assez intéressant.
Et alors justement, pour continuer avec cette liberté d'expression, quand l'étudiante dans le reportage dit « c'est clairement une censure, c'est une atteinte à notre liberté d'expression », est-ce que factuellement, et on peut dire qu'elle a raison, elle peut dire ça, elle a le droit de dire ça ? Enfin, elle a le droit, oui, mais est-ce que c'est juridiquement OK ?
C'est ça la difficulté. C'est qu'il est souvent assez difficile de dire a priori, pour des principes aussi généraux, si c'est, comme vous dites, juridiquement OK ou pas. Parce qu'en fait, si, admettons que cette loi passe, bon, là ça semble pas, quand même pas bien parti, mais si cette loi passait, les parlementaires auraient notamment la possibilité de la déférer devant le Conseil constitutionnel. Et là, qu'est-ce qui se passerait ? En fait, c'est que c'est lui, le Conseil constitutionnel, il faudrait parler de qui il est aussi, parce que c'est pas n'importe qui, c'est lui qui aurait la capacité de dire si cette loi porte atteinte ou non au principe constitutionnel de la libre communication des pensées qui figure à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc en fait, vous voyez, c'est pas défini a priori, c'est toujours défini au cas par cas, et c'est ainsi que dans les dernières années, on a eu quelques lois qui ont redéfini plusieurs fois le périmètre de la liberté d'expression, depuis la loi dite Guesso sur justement notamment la question du révisionnisme, etc. Donc au fur et à mesure, on définit, on délimite ce périmètre, mais c'est extrêmement compliqué de dire a priori, même si spontanément on peut dire bah oui, ça paraît aller un peu trop loin par rapport à ce qu'on a l'habitude de comprendre juridiquement. Mais ce juridiquement, en fait, il est évolutif. Il est toujours circonstancié. Il est circonstancié à un pays, mais aussi à une époque. C'est-à-dire que ce qui paraissait impossible à un moment donné, le devient quelques décennies plus tard, parce que l'ambiance a changé. Et donc, les mêmes principes, les mêmes énoncés, on ne les comprend plus pareil. Donc, c'est pour ça qu'on n'est jamais certain à l'avance de savoir quelle est la réponse, par exemple, qui va être donnée par le Conseil constitutionnel. On n'est jamais certain à l'avance de savoir quel type de proposition les parlementaires vont oser justement déposer en fonction de l'époque. Donc le droit, ce n'est pas en fait quelque chose de complètement rigide et fermé définitivement. Au contraire, c'est une fenêtre qui est en permanence ouverte à de nouvelles possibilités.
Ouais, et là, en tout cas, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a exprimé son inquiétude à propos de cette loi qui, selon elle, fait peser, je cite, de sérieuses menaces justement sur la liberté d'expression et la liberté académique en visant des propos sans lien direct avec l'antisémitisme. Donc, on voit bien que là, tout est imbriqué et que c'est extrêmement compliqué, effectivement, de poser des bases claires et sans que ça... Enfin, tout le monde peut venir mettre son grain de sel et que ça explose.
Mais c'est ça, mais c'est toujours une question de définition des mots. Ici, qu'est-ce que ça veut dire l'antisémitisme ? C'est-à-dire qu'en ce moment, cette loi, elle est justifiée comment ? Elle est justifiée par le fait que certains pensent qu'à travers la critique de l'État d'Israël, eh bien, en réalité, se nichent des pensées antisémites. Si on définit l'antisémitisme de cette manière-là, alors... On peut rendre cette proposition cohérente avec le droit existant. Mais si on pense que non, ça n'est pas de l'antisémitisme, c'est une chose distincte de l'antisémitisme et la critique de l'État d'Israël, alors cette loi entre en contradiction avec l'existant. Mais vous voyez, c'est une question de définition des mots.
Ce qui est intéressant aussi, et là ça, le reportage l'a bien montré, c'est qu'on était dans une fac et qu'il y avait beaucoup d'étudiants et étudiantes mobilisés. Est-ce que ça signifie, enfin c'est pas la première fois que les étudiants sont un peu force de proposition par rapport à ces mobilisations, donc on peut dire que c'est un vivier important de lutte, de contestation ?
Oui, c'est sûr, ça fait partie des viviers de contestation. La question implicite que vous me posez, c'est est-ce que ce vivier est a une contestation efficace ? Alors, en réalité, si on fait un peu l'histoire, ça dépend. C'est-à-dire que quelquefois, on a de fortes contestations étudiantes pour un résultat finalement nul à la fin, et parfois ça fonctionne. Donc là encore, en réalité, on comprend qu'un mouvement étudiant n'est pas, pour le coup, une force juridique en soi. Donc ça dépend des circonstances, ça dépend de si à un moment donné le personnel politique qui a le pouvoir de décider, eh bien, est sensible ou craint pour l'avenir que ce mouvement ne s'amplifie. C'est là encore toujours délicat de le déterminer a priori.
Alors, il y a une pétition qui a été mise en place le 18 février dernier sur le site officiel de l'Assemblée nationale qui s'intitule tout simplement « Non à la loi Yadan ». Alors, il faut au moins 500 000 signatures pour que l'Assemblée nationale daigne ou non ouvrir le débat. Là, il y a eu 707 957 signatures. Pourtant, ils ont refusé d'ouvrir le débat, justement, à l'Assemblée nationale. Bon, on parlera un petit peu après, dans la deuxième partie, de l'actualité très chaude de cette loi Yadan. Mais comment expliquer que, en fait, les signatures ne font pas d'effet sur les politiques ?
Alors, c'est aussi une situation qui est souvent mal comprise ou mal connue. Il y a notre système... j'allais dire de légitimité démocratique, et je vais le dire, siphonné par ce qu'on appelle la démocratie représentative, que je vais plutôt appeler le régime représentatif. Quand je dis c'est siphonné, c'est-à-dire que les élus, sur la base d'un suffrage qui est dit universel, avec un certain mode de scrutin qui serait éventuellement discutable, mais sur cette base-là, les élus ont... absorbe en quelque sorte toute la légitimité démocratique, toute la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas élu, eh bien, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est-à-dire qu'on peut vous accorder la parole, mais ça n'est pas une obligation. Et à la fin, ce sont les élus qui décident, toujours. Donc, il y a une possibilité qui est offerte de présenter des pétitions, etc. Mais il y a à la fin toujours un entier pouvoir qui réside dans la main des élus. Et ils absorbent à eux seuls toute, je le répète, toute la légitimité démocratique. Donc en réalité, c'est une simple possibilité qui est donnée, mais il n'y a aucune obligation pour les élus de répondre à ce type de demande. À la fin, c'est eux qui décident de toute façon.
Mais est-ce que ce n'est pas justement un peu le serpent qui se mord la queue ? Parce qu'à la période des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait mis en place les fameux cahiers de doléances où les citoyens pouvaient écrire et dire ce qu'ils avaient envie de dire. Et en fait, il n'en a pas fait grand-chose. Il demande aux citoyens de s'exprimer comme s'ils voulaient prendre en compte leur avis, alors qu'en fait, au final, effectivement, ils n'ont pas l'obligation d'eux, mais est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de demander pour ensuite ne rien faire ?
Disons que bon, ça fait partie des vieilles techniques, c'est quand même assez courant. Les cahiers de doléances, ils ont été faits, ils ont été archivés. Et qu'est-ce qu'on en a fait après ? Il faut voir la difficulté qu'il y a à rendre public ces cahiers de doléances. C'est quand même, en tout cas, à diffuser ces cahiers de doléances. Le gouvernement a refusé pendant des mois et des mois. Et il y a une décision qui a enfin acté de la possibilité de les diffuser, mais ce n'est absolument pas fait pour le moment. Donc oui, c'est un geste qu'on peut analyser comme presque cynique, en effet, parce que de toute façon, je le répète, ce sont les élus qui ont le pouvoir de décision et qui revendiquent la légitimité de leur statut.
Merci à vous pour cette première partie d'échange. Juste une petite pause musicale et on revient pour la deuxième partie, très bientôt. On écoute The Child in Us d'Enigma. Allez, c'est parti. C'était The Child With Us d'Enigma.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Et nous sommes toujours avec Laureline Fontaine. Alice, je te laisse poursuivre.
Oui, merci. On évoquait dans la première partie donc un peu plus la loi Yadan. Et vous avez commencé un petit peu à évoquer la Constitution et le Conseil constitutionnel. Et notamment, moi, je voulais vous demander, la finalité d'une proposition de loi ou d'un projet de loi, c'est que le Conseil constitutionnel doit bien vérifier que les termes juridiques sont en accord avec cette Constitution, justement. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment il fonctionne?
Oui, alors deux choses. D'abord, il faut savoir que toutes les lois ne passent pas par le Conseil constitutionnel.
Pourquoi?
Parce que il y a certaines lois, les lois les plus importantes qui sont organiques, qui sont censées compléter la Constitution, elles passent automatiquement. Mais toutes les autres, et je vous assure qu'il y en a beaucoup, parce que la plupart, on n'en parle pas, toutes les autres ne passent devant le Conseil que si les autorités qui peuvent saisir le Conseil saisissent le Conseil. Donc il y a beaucoup de lois qui passent, qui sont promulguées sans avoir été examiné par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsque le Conseil est saisi, alors, il y a deux moments possibles. Il y a au moment où la loi est adoptée, et puis il y a un peu plus tard, lorsque la loi est déjà rentrée en vigueur. Par exemple, elle n'est pas passée par le Conseil, et elle est appliquée par les juges, puisque c'est leur rôle d'appliquer la loi, et quelqu'un qui est dans un procès, dans une affaire, trouve que cette loi n'est pas conforme à la Constitution, et donc il va demander à ce que, en fait, on arrête l'instance et on saisisse le Conseil constitutionnel. Alors, c'est pas facile à faire, c'est pas évident d'atteindre cette procédure et d'atteindre ce stade de la saisine, c'est très rare, mais ça reste possible. Et le Conseil, donc, est chargé d'examiner effectivement si les dispositions dont il est saisi sont conformes ou non à la Constitution. Je voudrais préciser deux choses en essayant de ne pas être trop technique. Mais la première chose, c'est que quand on dit ça, ça paraît impliquer naturellement que donc c'est une bonne chose. Et il faut quand même se garder à l'esprit que ça veut dire qu'on accorde un crédit d'avance à tout ce qu'il y a dans la Constitution. Or, c'est pas si sûr. La Constitution, c'est à un moment donné un état des choses, et il y a peut-être des choses qui sont pas si bonnes dans la Constitution parfois. Il faut pas l'oublier que même quelquefois, aujourd'hui, vous avez des lois qui visent à lutter contre la fraude fiscale, contre l'évasion fiscale, et qui sont par exemple déclarées non conformes à la Constitution parce que elles seraient elle porterait atteinte, par exemple, à la liberté d'entreprendre. Et il y a de nombreuses décisions comme ça. Est-ce qu'on peut toujours s'en réjouir? C'est pas si sûr. Donc, si vous voulez, c'est pas le fait de dire que c'est bien ou que c'est pas bien, enfin, que c'est conforme ou que c'est pas conforme à la Constitution en soi, peut-être qui est suffisant pour porter un jugement de valeur. Je crois qu'il faudrait aller beaucoup plus loin. Mais ça, je préfère toujours le rappeler parce que ça me semble extrêmement important. Il faut pas accorder un crédit d'office à tout ce que raconte la Constitution et à tout ce qu'on lui fait dire. Et c'est là où j'en viens au Conseil constitutionnel lui-même. Parce que le Conseil, il fait dire beaucoup de choses à la Constitution. Il la rend silencieuse aussi dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire qu'il omet certaines de ces dispositions qui pourraient être très intéressantes pour nous. Et peut-être parce que ce Conseil, il est drôlement constitué, justement drôlement composé. C'est-à-dire qu'on on se méfie pas assez de ce Conseil, qui est censé être un contre-pouvoir, qui est censé dire aux législateurs « Ah non, là, attention, tu ne peux pas faire cette loi parce qu'il y a des dispositions très importantes dans la Constitution que tu violes ou auxquelles tu portes atteinte. » Or, le Conseil ne fait pas toujours ça, ou en tout cas, il le fait un peu bizarrement, parce que le Conseil est composé de personnalités qui sont issues de ce même monde politique. Aujourd'hui, vous avez un ancien Premier ministre au Conseil, vous avez un ancien président de l'Assemblée nationale, vous avez deux anciens ministres, vous avez des anciens parlementaires, et sinon, en bout de course, vous trouvez des anciens directeurs de cabinet ministériel. Donc, c'est du personnel politique, tout ça. Et pratiquement pas de juristes. Pratiquement pas, même je vais plus loin. À la limite, pas des juristes, mais pratiquement pas de personnes qui se sont fait une spécialité dans leur carrière de la Constitution, de connaître la Constitution. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils disent? Mais moi, j'y connais rien à la Constitution. Et c'est eux qui vont ensuite faire le contrôle des lois. Comment peut-on en même temps dire, depuis des années, que nous avons un système régressif du point de vue des libertés, liberté individuelle, droit du travail, protection sociale, tout ça est régressif. Et en même temps, on a un Conseil constitutionnel qui examine les lois par rapport à la Constitution. Peut-être donc qu'il fait son travail d'une drôle de manière, le Conseil constitutionnel.
Est-ce qu'on peut peut-être reposer, pardon, on aurait peut-être dû faire ça avant, mais les différentes étapes justement d'une loi, alors de la proposition jusqu'à la promulgation, est-ce que vous pouvez nous redire un peu les étapes
Alors il y a deux manières d'aboutir à une loi. Soit le gouvernement dépose un projet de loi, ce qu'on appelle le projet.
C'est voilà. Ce qui va arriver justement avec la loi Adam. Là, ça a été l'actu de cet après-midi. La proposition a été rejetée, mais
donc,
ils vont revenir en juin.
Voilà, va déposer un projet.
Et ça veut dire que ça engage clairement le gouvernement et ça pose quelque part un cap politique très clair.
Absolument, absolument. Mais il faut savoir qu'il y a plus de lois aujourd'hui adoptées qui sont à l'origine des projets.
D'accord.
Issus du gouvernement, déposés par le gouvernement, que de lois qui sont issues de propositions des parlementaires. Ce qui est un peu une anomalie, c'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas les parlementaires qui proposent la loi majoritairement.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que aussi, le gouvernement a plein de possibilités d'intervenir pendant la procédure. Donc une fois, en tout cas, que ou la proposition ou le projet a été déposé, ensuite, il part dans une commission spéciale, qui va examiner. Et puis, une fois que la commission a examiné et propose elle-même un texte, eh bien, c'est programmé pour entrer en séance publique. Et là, il va y avoir des débats. Entre-temps, il y a des amendements qui sont déposés.
C'est plus ou moins long.
Voilà, c'est plus ou moins lent. Mais c'est bien une loi pour laquelle on prend son temps. Il ne faut pas avoir le fanatisme de l'urgence. C'est très bien. C'est même beaucoup mieux une loi où on prend le temps de réfléchir. Surtout pour une loi comme ça, et c'est un temps qu'on prend de moins en moins. Le gouvernement déclare très souvent l'urgence, ce qui raccourcit la procédure. Et donc, à l'issue de cet examen, l'Assemblée qui est saisie, soit rejette, soit adopte. Si elle adopte, on transmet à l'autre Assemblée, et c'est le même système qui recommence. Et à la fin, soit on a le même texte, qui est adopté par la deuxième Assemblée, soit non. Et là, il y a deux possibilités, soit on convoque une commission mixte avec des sénateurs et des députés. Et ensuite, c'est l'Assemblée qui sera en général saisie pour donner son dernier mot. Soit ça recommence la navette. Et à la fin, on a ou non un texte. Une fois que c'est adopté, c'est transmis au président de la République. Et puis, il y a un délai pendant lequel lui, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Si le Conseil est saisi, le président ne peut pas promulguer la loi, il attend la réponse du Conseil constitutionnel dans le mois qui suit. Et cette réponse étant donnée, ensuite, le président, soit il ne peut pas promulguer la loi parce qu'elle a été entièrement censurée, soit elle a été partiellement censurée et peut promulguer éventuellement, s'il estime possible, une partie de la loi.
Comment expliquer qu'une loi fait davantage réagir les citoyens et les citoyennes ? Je repense aussi à la loi Duplomb, qui a eu plus de 2 millions de signatures, qui a fait l'objet de débats à l'Assemblée, mais qui a été adoptée malgré tout. Est-ce qu'il y a comme une sorte des ingrédients qui font que forcément ça va faire réagir les citoyens et les citoyennes ? Ou alors c'est parce que ça vient d'un certain groupe politique ou c'est le contexte géopolitique ? Enfin, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent...
Ouais, c'est vraiment très compliqué à déterminer par avance parce que là encore c'est toujours une question de circonstance. La loi Adam, ça fait du bruit là, mais en réalité ça fait un moment qu'elle est sur l'ouvrage, comme on dit. On n'en parlait pas au début. Ça fait très peu de temps. Tout d'un coup la mayonnaise a pris, si j'ose dire. Mais quand elle a été proposée au départ, on n'en parlait presque pas. On en parlait, bien sûr, mais ça ne faisait pas du tout le bruit que ça fait aujourd'hui. Donc là, ça a pris du temps, par exemple. Et puis, pour Duplomb, ça a été beaucoup plus rapide. Non, je pense qu'il n'y a pas d'ingrédient. Vous n'imaginez pas le nombre de dispositions qui passent sans même qu'on le sache, parce que certaines sont beaucoup moins voyantes. Là, c'est vrai que c'est très voyant. Mais vous avez des dispositions, des fois, un peu moins voyantes. Et même moi, comme juriste, quelquefois, je passe complètement à côté. Et c'est un peu après que je m'aperçois, ah, mais cette disposition... Vous voyez, par exemple, là, la loi de programmation militaire qui prévoit un nouvel état d'alerte qui n'est pas appliqué des hannetons, c'est-à-dire qui élargit considérablement la procédure, les pouvoirs de perquisition, etc.
Ça, je suis à peu près sûre que pour l'instant, personne ne va vraiment en parler. Mais pourquoi ? En fait, encore une fois, ça dépend, vous avez raison, ça dépend du contexte politique, du groupe politique. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens qui s'intéressent à ça ou pas ? Et ça, ça ne se définit pas forcément par avance. De l'écho médiatique aussi, c'est très important ça.
Alors peut-être en une minute, il nous reste une minute pour répondre. On l'a dit un peu en sommaire, en introduction. Qui peut encore s'opposer à une loi si, quand les citoyens font du bruit, qu'il y a des millions de signatures, les lois sont quand même adoptées ?
Ben, je pense qu'en même temps, vous venez de donner la réponse. Hein, c'est-à-dire que quand... Alors, vous voyez, dans la loi Duplomb, la première, ben, là, pour le coup, le Conseil a joué son rôle. Je pense qu'il a joué à peu de frais, mais il a fait un peu de démagogie et tout le monde était très content. Mais il l'a fait pas n'importe comment, néanmoins. Parce qu'en gros, il a dit que c'était une question de procédure, comme très souvent. Ce qui explique pourquoi c'est revenu. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le fond. Si vous avez 2 millions de personnes qui s'opposent, après, on va vous répondre très simplement. 2 millions, c'est pas 70 millions. Les 2 millions, ils n'ont pas la légitimité des élus. On en revient à ça.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Alice. Merci Laureline d'avoir répondu présent. Allez, deuxième pause musicale. On vous propose d'écouter Shanshara de Jaja. Allez. C'était Shanshara de Jaja. Tout de suite, la chronique
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Regardez dans votre bibliothèque. Vous avez sans aucun doute au moins un livre au bas duquel apparaissent les 7 lettres de Grasset. Et ce, peu importe vos idées ou opinions politiques. C'est une maison d'édition iconique qui est secouée par un séisme puisque 115 de ses autrices et auteurs claquent la porte suite au licenciement d'Olivier Nora, PDG historique de la maison depuis 26 ans. Et parmi ces autrices et auteurs, on retrouve des noms comme ceux de Virginie Despentes, Frédéric Becbédé, Caroline Fourest ou encore Bernard-Henri Lévy. Et c'est dans une lettre ouverte qu'ils expliquent leur départ car ils jugent que le licenciement d'Olivier Nora est... Et je les cite, une atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale et à la liberté de création. Car ce licenciement est loin d'être anodin et à tout d'un acte politique mené par son propriétaire, le milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré, dont la quête de médias en vue de propager son idéologie n'est plus approuvée et est de plus en plus agressive alors qu'approche l'élection présidentielle de 2027. C'est d'ailleurs Jean-Christophe Thierry de Bercegol-Dumoulin, fidèle lieutenant à double particule de Bolloré et actuel directeur général de Hachette Livre, le troisième éditeur mondial tout de même, qui est nommé en place et lieu d'Olivier Nora. Et si ce licenciement a provoqué un tel tremblement de terre, c'est bien parce qu'Olivier Nora n'est pas n'importe qui. En fait, il était, selon ses termes, le garant de l'indépendance de Grasset après le rachat de Bolloré en 2023. C'est une figure appréciée, respectée et à l'écoute de ses autrices et auteurs. Et d'ailleurs, Despentes dit de lui « Olivier Nora m'inspire davantage que... » Pardon. « Olivier Nora m'inspire davantage que de... » Pardon. Olivier Nora m'inspire davantage que de la confiance. Je n'ai jamais rencontré un homme de pouvoir qui prenne autant soin des gens qui l'entourent. Il est aussi reconnu dans le milieu pour avoir tenu tête à Nicolas Sarkozy lorsque ce dernier tentait de peser sur le fonctionnement interne du groupe Lagardère, détenteur de Grasset. Véritable défenseur du droit de création de ses autrices et auteurs, il permettait à diverses idées et opinions d'exister au sein d'une seule et même maison d'édition. Il fait nul doute que Bolloré cherchait surtout n'importe quel prétexte pour se débarrasser d'un élément qu'il devait juger encombrant dans sa volonté de répandre son idéologie. N'oublions pas que Bolloré a fait de la maison d'édition Fayard, connue pour publier principalement des livres d'histoire, la principale éditrice d'ouvrages de personnages politiques venant, vous l'aurez deviné, de droite et d'extrême droite. Alors, au moment de licencier Olivier Nora, on peut se demander si Bolloré avait anticipé un tel raz-de-marée et ce qu'il risque de coûter économiquement à l'homme d'affaires en sachant que le monde de l'édition traverse déjà une période délicate. Car dans ses 115 noms, il figure parmi les plus gros vendeurs de livres de la maison d'édition Grasset. Il sera donc intéressant de suivre dans les semaines qui viennent et alors que le Salon du Livre s'apprête à ouvrir ses portes à Paris, quelles vont être les conséquences de ce séisme qui vient peut-être porter un coup à Bolloré. Si on peut célébrer la louable réaction de résistance de cette alliance d'autrices et auteurs face aux volontés grandissantes de milliardaires qui cherchent à faire passer leurs idées en outrepassant la liberté de création et d'opinion, on peut cependant pleurer la probable disparition de ce qui faisait de la maison Grasset, et je cite la lettre ouverte pour terminer, « une maison particulière où s'y côtoyaient pacifiquement des autrices et auteurs qui n'étaient pas d'accord sur grand-chose ».
Merci beaucoup Amaury. On s'envole tout de suite à la découverte d'un métier peu connu, celui de thanatopracteur avec Mika. Il est avec nous au téléphone. Eve, c'est à toi.
Mais dis-moi, c'est quoi ton taf ?
Deux jeudis par semaine dans la matinale de 19h.
Bonsoir la matinale de Radio Campus. Bonsoir Mickaël, est-ce que vous nous entendez ?
Je vous entends super bien.
Super. Mickaël, merci de nous accorder du temps pour cette interview. Alors juste en introduction, je vous avoue que j'étais un peu surprise d'apprendre que j'allais interviewer un thanatopracteur, ça y est, ça commence, parce que c'est pas facile à épeler, je vous avoue.
Oui, et c'est vrai.
Ouais, c'est vrai, et je vous présente d'avance mes excuses parce que j'ai beaucoup fait de lapsus en préparant cette chronique, cette interview. Et
mais c'est pas grave.
Beaucoup de jeux de mots, voilà. Donc par exemple, j'avais dit les gens meurent d'envie de savoir, je vais la rayer. Donc je vais juste commencer par... on va reparler de l'humour plus tard. Je voulais vous demander déjà ce qu'on entend par l'origine du mot thanatopraxie et ainsi expliquer votre métier. En quoi consiste-t-il ?
Alors, l'origine du mot thanatopraxie, thanato donc c'est la mort, voilà, et praxie c'est la pratique, donc c'est la pratique de la mort, les praticiens de la mort en fait, voilà. Et le thanatopracteur, c'est la personne qui fait les soins de conservation sur les défunts, c'est-à-dire les soins qui vont ralentir la thanatomorphose, donc qui est l'évolution physique d'un défunt dans le temps, autrement dit la décomposition.
D'accord, et est-ce qu'il y a des différences entre embaumement et thanatopraxie justement ?
Alors oui, la thanatopraxie est aussi appelée l'embaumement moderne, puisque l'embaumement, comme on l'a connu dans les manuscrits, donc l'embaumement antique, notamment fait par les Égyptiens qui étaient maîtres en la matière, est interdit maintenant, puisqu'il faut sortir les organes, tous les organes ne sont pas replacés, etc. C'est quelque chose qui ne se pratique plus. Voilà, le but était vraiment de conserver dans le long terme. Or, la thanatopraxie, le but est que le défunt soit beau et présentable jusqu'à l'inhumation ou la crémation. Et surtout qu'il soit relativement sain, c'est-à-dire qu'on le décharge de tout ce qui peut être bactéries, virus, etc.
D'accord. Et ça fait combien de temps que vous exercez ce métier ? Et comment est née votre vocation ?
Eh ben, ça fait 3 ans que je suis thanatopracteur. Moi, j'ai commencé dans le funéraire, par contre, à 18 ans et j'en ai 33.
D'accord.
Et c'est venu du fait que je voulais absolument travailler avec des morts. Voilà, c'est vraiment ce qui m'intéressait. J'ai pas eu de deuil particulier. J'ai pas été confronté à ça, outre le fait que j'ai perdu mes grands-parents, mais ça m'a pas créé un traumatisme ou quoi. Mais voilà, je voulais travailler avec les morts.
D'accord, on va y revenir sur ce travail avec les morts. En préparant cette interview, j'ai appris qu'il fallait passer un examen pour être thanatopracteur ou un concours. Alors, petite question, est-ce qu'il faut avoir fait des études de médecine pour commencer ?
Alors non, mais par contre, on a une partie médecine dans la préparation de notre concours. Voilà, ça fait partie des cours qu'on a. C'est beaucoup plus léger que ce qu'il y a en médecine, mais il y a une partie médecine, une partie thanatopraxie. On étudie la médecine légale, l'anatomie. Et ensuite, on passe un concours dispensé par le ministère de la Santé. Tout à fait.
D'accord.
Et ce concours ouvre les portes après de la pratique, qui se valide, elle, par un examen.
D'accord, ok. Et je voulais vous demander d'ailleurs, quels sont les savoir-faire pour devenir un peu thanatopracteur ? On va dire, quelles sont les compétences ?
Les compétences, il faut une bonne forme physique, parce qu'on est amené à manipuler des corps qui sont inertes. Voilà. Il faut aimer les amplitudes horaires parce que, inévitablement, on choisit pas quand les gens décèdent. Donc, des fois, il y a des pics d'activité. Il faut savoir gérer ses émotions. Inévitablement, c'est un petit peu comme le personnel soignant, qui sont des gens très empathiques. Il faut avoir de l'empathie. Il faut, au contraire, plus que ce qu'on pense, aimer les gens, parce que finalement, on travaille aussi pour l'humain et pour l'humain vivant, parce que c'est les personnes endeuillées qui apprécient notre travail et c'est elles qui vont avoir un deuil facilité de par notre travail. Donc, il faut être très empathique, mais savoir gérer ses émotions.
Ouais,
c'est sûr qu'il faut savoir se détacher.
Et je voulais vous demander justement quels sont les savoir-être, parce que dans les annales que j'ai pu lire pour préparer le concours, que je n'ai pas envie de passer, je vous rassure, j'ai trouvé qu'il fallait définir l'empathie. Et donc, c'est quoi les savoir-être, par exemple ? Comment vous allez vous comporter avec les familles endeuillées ?
Alors, les thanatopracteurs voient rarement les familles endeuillées. Moi, je suis polyvalent, donc c'est encore autre chose. Mais je pense que... il faut pas trop en faire, tout dépend après en face de qui on se trouve. Si c'est une personne jeune qui est décédée, l'approche va être différente. Maintenant, si c'est une personne âgée, c'est plus dans l'ordre des choses. Donc, en fait, c'est plutôt au contact des familles qu'on voit comment on doit se comporter. Chaque famille est différente, parce que c'est des humains avant tout. Et il y en a qui sont pas dans le même état d'esprit. Donc, en fait, il faut s'adapter à la famille qu'on a en face. Il y en a même qui sont très ouverts à l'ironie, etc. Donc... je pense qu'il faut être à l'écoute des gens en face, bien percevoir ce qui se passe autour, et ça se fait tout seul.
D'accord. Et donc, comment se déroule la formation ? Comment avez-vous pu faire votre formation ? Est-ce que vous avez dû appeler, par exemple, les pompes funèbres ? Comment ça se passe, en fait, concrètement, lorsque vous avez décidé de devenir thanatopracteur ?
C'est très, très compliqué. Il faut se dire que le milieu funéraire, c'est un milieu qui est particulièrement fermé, qui est petit, où tout le monde se connaît. Après, c'est délicat de prendre des stagiaires qu'on connaît pas. On voit quand même des corps qui peuvent être nus, des personnes qui peuvent être décédées dans des situations bien, bien singulières. Donc, c'est compliqué, mais il faut, en premier lieu, contacter des pompes funèbres, contacter des thanatopracteurs pour faire un stage d'immersion, pour aller voir plusieurs soins et pas qu'un soin sur papy ou mamie. Il faut voir vraiment si on peut des accidentés, des morts violentes, des gens qui ont été lésés par des pathologies. Il faut vraiment tout voir. Et dès le moment qu'on a fait ce stage-là, ensuite, on se rapproche d'une école pour être formé et pour être préparé au concours. Mais moi, je dirais vraiment, il faut faire un vrai stage immersif en premier lieu, voir si ça nous plaît. On se rapproche de pompes funèbres pour ça. Ensuite, si ça nous plaît, on contacte une école, on fait les tests d'entrée pour rentrer dans les écoles et c'est parti. Une fois qu'on a fait cette formation théorique avec ce minimum d'heures obligatoires, on part pour le concours national.
D'accord. Et je voulais vous demander justement, on va parler des corps, combien de temps faut-il pour préparer le corps d'un défunt ou deux défunts, on va dire ?
En moyenne, une heure pour un corps, une heure par corps, une heure quinze, tout dépend. Après, ça dépend aussi de l'état du défunt. Ça dépend de sa corpulence, de son état, depuis combien de temps il est décédé, parce que le traitement ne va pas être le même. C'est au cas par cas. Mais en moyenne, une heure.
Est-ce que, par exemple, il y a des cas très particuliers, par exemple, des accidents, sans rentrer dans le morbide, est-ce qu'il y a des corps qui demandent plus de temps que d'autres, on va dire ?
Oui, bien sûr, mais sans parler des accidentés, il suffit que les gens aient différentes pathologies. Une personne qui va avoir une stomie, par exemple, il va falloir la retirer, puis la suturer. Une personne qui va avoir un pacemaker, il va falloir l'enlever. Une personne qui va faire de l'œdème, il va falloir aussi gérer tout ça. Ou une personne qui a ne serait-ce que chuté, une personne qui fait une crise cardiaque de sa hauteur, mais qui chute sur quelque chose de dur ou quoi, qui peut être lésée. Donc, tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut suturer le corps, nettoyer toutes ces plaies et ensuite faire le soin. Donc oui, c'est au cas par cas. Un soin peut être très, très long. Alors après, bien sûr, sur tout ce qui est corps accidenté ou quoi, là, ça relève de la thanatoplastie. Et là, c'est des heures et des heures. Moi, je connais des thanatos qui ont passé plus de 10 heures sur certains corps.
Oui, quand même.
Pour les rendre présentables. Et oui, 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 c'est... Ouais. C'est long, c'est fastidieux, c'est minutieux, il faut être passionné de toute façon pour faire ça.
Et je voulais vous demander, est-ce que ça vous arrive ou est-ce que ça vous est arrivé? Parce que moi je l'ai vu en assistant aussi à des cérémonies aux pompes funèbres. Est-ce que vous devez pratiquer parfois des soins typiques selon des religions ou des cultures? Est-ce que ça vous est arrivé?
Non, parce que en général, ils ont des gens qui par exemple, chez les musulmans, bah, y a des gens qui vont être spécialisés pour faire les toilettes rituelles, qui sont assermentés pour faire ça. Pareil chez les juifs, pareil chez les bouddhistes. Donc finalement, nous, on s'occupe plutôt des gens athées ou des cathos, voilà. Après, on est très en phase sur tout ce qui se fait. On sait ce que font nos confrères hein, qui vont s'occuper des toilettes rituelles. Mais non, c'est rare de devoir faire ça. Après, on peut être amené à s'occuper d'une personne de confession musulmane ou autre, dans le cas d'un accident, puisque par contre, ben, s'il y a de la thanatoplastie à faire, c'est vraiment nous qui sommes les plus aguerris pour faire ça. Ils ne sont pas formés pour ça, tous ceux qui font les toilettes rituelles à proprement dit. Donc on peut être amené à pratiquer sur ces gens-là, mais il n'y a rien qui diffère. On va faire un soin comme sur n'importe quelle personne, une reconstruction comme sur n'importe quelle autre personne, et ensuite, les personnes assermentées feront la toilette rituelle par-dessus.
D'accord. Voilà. Et on va terminer.
C'est quelque chose de scientifique, la thanatopraxie. Donc, on est tous constitués pareil. Donc, ouais. C'est le même principe qu'un médecin, hein, que vous soyez musulman, juif ou autre, il va pratiquer pareil. Donc, c'est le même principe.
Et on va aller vers des questions plus philosophiques, puisque vous côtoyez les défunts. J'allais vous demander, pour finir, quel est votre rapport avec la mort ou, en question miroir, qu'est-ce que la mort, elle vous a enseigné sur la vie?
Joli.
Eh ben, la mort m'enseigne que tous les jours, tous les jours, je suis en phase avec la réalité du fait que je suis en vie, que tout ce qui m'arrive dans ma vie n'est pas irrémédiable, puisque il y a que la mort qui est irrémédiable, voilà. Donc, il faut tirer le positif de chaque situation, arrêter de se prendre la tête avec des broutilles. Voilà, on n'est pas sur la table de soins à la place de nos patients et profiter de la vie. La vie est courte, elle peut s'arriver du jour au lendemain de manière très spontanée. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, savourez la vie, profitez de la vie, arrêtez de vous prendre la tête et regardez ceux qui ont pire que vous et pas ceux qui ont mieux. Et dès le moment que vous aurez acquis tout ça, et ben vous vivrez bien différemment. Les gens dans le funéraire, et c'est un peu comme le personnel soignant, sont des gens très avenantes, très aimantes, très souriantes, qui aiment la vie, qui se prennent pas la tête, parce qu'on est confronté tous les jours à la pire des choses. Voilà.
Eh ben merci, on va terminer sur cette note très positive. J'avais encore une question
merci
très potache à vous poser, mais dans une autre vie, peut-être, on se retrouvera.
Mais comme vous voulez.
Alors, on me dit que si je peux poser la question potache. Question potache, c'était est-ce que vous êtes heureux de travailler seul parce que vous n'avez pas de collègues chiants, comme moi, par exemple, qui vous envient?
Alors moi, j'aime beaucoup me retrouver avec les défunts parce que c'est un moment où je suis tranquille, où je me mets dans ma bulle, où je me concentre.
Ouais.
Mais à contrario, j'aime aussi beaucoup les gens. Donc non, c'est pour ça que j'ai aussi voulu être polyvalent et être conseiller funéraire en même temps pour garder ce contact avec les gens. Et ma future patronne, c'est une gens pénible, mais une gens pénible que j'adore parce qu'elle égaye ma vie finalement. Donc non, moi j'aimerais vite trop vous avoir comme collègue aussi.
Faites-vous mousser par votre patronne, je vous laisse.
Merci beaucoup, c'est une très belle conclusion. Profitez de la
merci
vie,
carpe
diem. Merci Eve, merci Mika pour ces éclairages sur un métier qui intrigue autant qu'il fascine. Allez, troisième pause musicale, parce que vous le valez bien, on vous embarque avec Dead Can Dance de Saltarello.
C'était Dead Can Dance de Saltarello. Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9, place à la chronique libre de Rachel.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Alimatou. Depuis bientôt un mois, c'est le printemps. Le soleil est enfin sorti de son lit et la douceur a ôté nos doudounes, comme la promesse de l'été qui nous attend. Les bourgeons bourgeonnent, les papillons papillonnent, les pigeons roucoulent et les parisiens et parisiennes se sont remis à la course à pied. Et moi aussi. Entre 12h30 et 13h30, le stade municipal est comme une pièce en un seul acte, qui se répète en boucle jour après jour. Le même décor, une piste circulaire de 250 mètres séparée en quatre couloirs qui sentent la gomme fondue. Et le même casting, les habitués qui arrivent avant l'heure, les débutantes qui tâtonnent, les vieux et les vieilles avec le même t-shirt d'un marathon des années 90, mon voisin du quatrième qui ne me dit toujours pas bonjour, les copines qui s'encouragent, les copains qui se chronomètrent, celles et ceux qui s'échauffent, s'élancent et s'essoufflent, qui comme moi s'entraînent dans le même leggings depuis 10 ans. Finalement, des gueux et des gueuses, aux yeux de nos chers dieux du stade, ceux qui pensent qu'ils sont seuls en scène, qui courent dans le sens inverse du flux, qui te doublent en te frôlant, mais qui accélèrent quand toi, tu les doubles, parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille plus vite. Ceux qui changent de voix sans regarder leur angle mort, et qui freinent et s'arrêtent sans regarder derrière en risquant de te bousculer. Qui écoutent de la musique sans écouteurs, qui font des pompes au milieu de la piste, qui cherchent les regards pour mieux s'admirer, qui pensent que c'est une compétition et qu'ils sont meilleurs que toi. Ceux qui, avec les nouvelles températures printanées estivales, ont déjà enlevé leur t-shirt pour courir torse nu. Alors je ne vais pas leur jeter la pierre. Parce que qui ne rêverait pas d'avoir le stade pour soi, de courir avec le moins de vêtements possible, sans entrave, en toute liberté. Mis à part nous, les gueuses, ce que les dieux oublient trop souvent, c'est qu'elles ont du mal à trouver leur place au stade ou dans la rue, parce que nous la prennent, sans la partager et sans se poser de questions. Parce que la conscience de l'espace public est réservée à celles qui le subissent. À l'arrivée du printemps, quand les dieux s'entraînent et s'amusent, sachez que les gueuses subissent et s'énervent. Quand les dieux auront déjà enlevé leurs t-shirts, elles devront troquer leurs leggings pour des shorts et leurs énormes sweats pour des t-shirts. Viendra alors le retour encore plus en masse, des sourires salaces, des blagues, des insultes ou des bruits d'animaux, des piétons qui se mettent à courir à nos côtés juste pour rigoler, des voitures qui nous klaxonnent, des encouragements qui cachent le harcèlement et de toutes nos stratégies d'évitement. Mince, si je pars maintenant, dans 20 minutes, il fera déjà nuit. Trop tard. J'irai demain matin. Il fait 28 degrés. Est-ce que je peux courir en brassière? Non, je vais mettre un t-shirt. Et un pull autour de la taille pour cacher mes formes. Il a sifflé, mais peut-être que c'était pas pour moi. Il a sûrement klaxonné une voiture. Peut-être que j'exagère. Sûrement que je psychote. J'ai passé par cette rue, il y a plus de monde. Je rentrais plus tôt. C'est plus prudent. Mais, Rachel, pas tous les dieux, me diriez-vous. Non, mais c'est bien toujours des gueuses qui subissent. Et c'est toujours de la part des hommes. Et pas tous les dieux, me diriez-vous. Mais je n'en ai jamais entendu un seul dire ou faire quoi que ce soit, ni même penser à partager, ni nous laisser de la place sur le trottoir ou les stades, ni même remarquer que leurs partenaires de course, leurs compagnes, leurs amis, leurs sœurs et leurs mères sont elles aussi objectivées, sont elles aussi vulnérables et sur leur garde pendant leur séance, et que le printemps en leggings leur est si pénible. Dimanche dernier, c'était le marathon de Paris, et tout le monde en a profité pour montrer des parcours d'exception individuels, et pour rappeler que c'est un des sports les plus mixtes, alors qu'on ne peut toujours pas jouer dans la même course, hommes et femmes. Alors j'aimerais aujourd'hui rappeler à tous ces gueux qui se croient dieux, avec l'arrivée de l'été, que nous aussi sommes d'abord des déesses et aimerions courir en paix sur le mont stade olympique. Et que ça, c'est aussi votre responsabilité.
Merci Rachel pour cette chronique. Il est presque 20h et c'est déjà la fin de notre matinale. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Un immense merci à nos invités, Laureline Fontaine, Michael. Merci à l'équipe, Alice, Eve, Amaury, Rachel. Et comment oublier ces trois incontournables. Joël Aréal, Odéjane à la coordination. Restez sur Radio Campus Paris. À bientôt, la soirée continue.
Paris.